autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, en orbite autour de la planète Mars pour nous y poser toutes les questions possibles et imaginables. À commencer par la plus fondamentale, celle de la vie extraterrestre. La vie est-elle aussi apparue sur Mars et sous quelle forme la retrouver ? Piste de réponse attendue grâce au nouveau rover de la NASA de la mission Mars 2020, Persévérance, qui à l'heure de cette rediffusion a déjà parcouru plus de la moitié de son voyage vers Mars et qui devrait atterrir en février 2021 sur le cratère G0, ancien delta de rivière et de lac martien, pour y rechercher des traces de vie passée et en rapporter, c'est une première, des échantillons, afin de les étudier mais aussi de préparer un possible voyage humain vers Mars. Mais pourquoi donc ? Puisque rovers et robots, caméras et drones spatiaux font si bien leur boulot martien, pourquoi vouloir à tout prix y envoyer des humains et surtout comment ? Pourquoi ce rêve prométhéen de poser le pied de l'homme ou de la femme sur Mars est-il toujours, voire plus que jamais, d'actualité ? Il y a de quoi s'interroger sur cette ambition martienne, vu le défi colossal à la fois technologique, scientifique et financier, mais aussi éthique et humain que soulève le voyage vers Mars. Comment y envoyer des humains et surtout comment les faire revenir ? Mystères et grands enjeux sur lesquels nous nous étions interrogés le 6 juillet dernier avec l'astrophysicien Francis Rocard, en charge des programmes d'exploration du système solaire au CNES. Francis Rocard venait de publier un essai très instructif auquel nous avions emprunté le titre de cette émission que nous vous proposons de réécouter aujourd'hui autour de la question « Quelles nouvelles de Mars ?» Et pourquoi vouloir y aller à tout prix ? Première piste de réponse de notre astronaute préféré, Thomas Pesquet.
On a à cœur d'aller là où personne n'est jamais allé. Entre un peu explorateur, c'est ça le rêve. Dans le métier d'astronaute, il y a ce côté un peu romanesque, je pense, d'aller là où personne n'est jamais allé, pas pour planter un drapeau, mais pour vraiment un peu emmener l'humanité avec soi. Donc oui, moi j'aimerais bien, je rêverais de ça, d'aller sur Mars, ce serait le rêve total. Il faut imaginer, là, sur une planète, personne n'est jamais allé, on est premier à regarder ces choses-là, on découvre tout, tout est nouveau, c'est quand même complètement incroyable, ce serait l'aventure technologique du siècle, c'est sûr. Donc oui, moi, ça me ferait rêver d'en faire partie, mais même si c'est pas moi qui vais mettre le pied, ben j'espère que j'en ferai partie et que j'aiderai et que je ferai en sorte que ça se passe, même si en restant au sol et en donnant des conseils ou en travaillant techniquement.
Prête à tout ou presque, Thomas Pesquet, pour y aller sur Mars ou y contribuer. Les candidats, évidemment, ne manquent pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Francis Rocard.
Bonjour.
Vous n'êtes pas candidat, hein, vous pourrez aller tout de suite sur Mars.
J'ai plus l'âge, là, malheureusement.
Merci en tout cas d'être en direct, en présentiel, en vrai avec nous. Vous êtes astrophysicien. Francis Rocard, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, éminent spécialiste de Mars. On l'a dit, vous ne rêvez pas d'y aller vous-même, mais en revanche, je vous tenais à ce qu'on se pose des bonnes questions en toute connaissance de cause sur cette ambition spatiale martienne qui peut sembler démesurée ou en tout cas pour le moins utopique, sur ce rêve martien qui nous habite et qui habite les plus grands acteurs privés et publics de l'espace, notamment aux États-Unis mais pas seulement. Cet été, outre Mars 2020, il y a une mission chinoise, Tianwen, qui devrait aussi décoller pour Mars, ainsi qu'un orbiteur pour le compte des Émirats Arabes Unis, lancé sur une fusée japonaise, et puis l'européenne ExoMars est attendu pour 2022, ça fait beaucoup. Alors pour y voir un peu plus clair, vous venez de publier, Francis Rocard chez Flammarion, Dernière nouvelle de Mars. Un essai dans lequel vous avez donc tenu à mettre sur la table finalement toutes les questions soulevées par le casse-tête, véritable casse-tête du voyage sur Mars. Cette mission, pour l'heure impossible, sauf qu'on fait comme si c'était possible, envisageable, presque à portée de main.
Oui, j'aime bien dire que c'est l'impossible en préparation.
L'impossible en préparation.
Voilà. C'est vrai que quand on regarde de bout en bout, tout ce que ça implique, c'est gigantesque. C'est gigantesque en masse à envoyer vers Mars, en technologie à développer. On parle du nucléaire spatial. Toute la problématique des ressources d'eau sur la Lune et sur Mars. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est un gros point d'interrogation. Et donc... Je pense que les Américains ils ont cette vision à long terme. C'est l'homme sur Mars, c'est l'horizon goal, comme ils disent en anglais. Et c'est très pratique parce que ça leur donne une feuille de route. Ils savent qu'à long terme, c'est ça l'objectif.
Et c'est l'objectif important. Aussi qui se cache, ou à peine caché, derrière l'exploration de la Lune. Parce que la Lune, c'est vraiment la base lunaire, c'est le prochain objectif de tous les acteurs du spatial. Et en fait, la Lune, c'est pas pour la Lune, c'est pour Mars. Et c'est pour envoyer un homme sur Mars, c'est ça ?
C'est ça. Je suis pas sûr qu'il y aura une base lunaire. Ce que la NASA a annoncé en 2017, c'est on va faire une petite station spatiale en orbite lunaire, ce qui s'est appelé la Lunar Orbital Platform Gateway. C'est une station en miniature en orbite lunaire, et le but était de pouvoir aller de cette station à la surface avec des hommes, c'est-à-dire faire des missions de type Apollo. Vous arrivez quelque part, mais vous ne revenez pas au même point. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de base lunaire. Et avec un attrait très particulier pour le pôle sud.
Le pôle sud de la Lune.
Les pôles lunaires sont très froids, comme les pôles terrestres. Mais comme la Lune n'a pratiquement pas d'inclinaison par rapport à son axe de rotation, il y a des zones qui sont en permanence dans la nuit. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et donc, ça crée ce qu'on appelle le principe de la paroi froide en physique. C'est-à-dire que si une comète percute la Lune, ça va expulser beaucoup de molécules d'eau. La comète contient beaucoup d'eau. Et si ces molécules d'eau tombent dans ces cratères, 3 ou 4 milliards d'années plus tard, vous allez accumuler comme ça de la glace d'eau au fond des cratères. Et donc, ça a été observé depuis l'orbite par différentes missions, au moins 3. Et donc, on a la conviction que oui, il y a de l'eau dans certains de ces cratères. Alors, plutôt au pôle sud, au pôle nord aussi, mais le pôle sud est plus attractif. Et la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir l'exploiter ?
Exploiter l'eau lunaire ?
L'eau lunaire. Ça veut dire extraire, pas des litres, mais plutôt des tonnes d'eau pour l'envoyer à la LOPG, pour... LOPG, Lunar Orbital Platform Gateway, c'est cette fameuse station qui a un nom bizarre. Et pour un équipage qui partirait vers Mars, il faudrait faire le plein d'eau, simplement pour les 6 mois de voyage.
C'est ça, parce que quand on parle de Mars et d'envoyer des humains sur Mars, tout est un casse-tête, à commencer par le voyage. Alors, il faut y aller, il faut s'y poser, il faut en revenir, sauf que c'est juste impossible. Pour le moment, combien de temps il faut, rappelons-le quand même, pour aller sur Mars?
Les créneaux standards, c'est-à-dire qui minimisent l'énergie du voyage, c'est soit un créneau à 7 mois, soit un créneau à 11 mois, typiquement. Ça dépend un petit peu de la géométrie, mais il y a deux créneaux, 7 mois et 11 mois. On peut faire plus long, mais évidemment avec des hommes, ce n'est pas intéressant. Mais pour faire plus court, inférieur à 7 mois, ça devient très compliqué. Ce n'est pas impossible, c'est simplement que... la fusée qui va vous injecter en orbite martienne devra être beaucoup, beaucoup plus puissante pour
et
pousser.
Donc plus lourde. Donc
plus lourde. Mais quand vous allez arriver vers Mars, vous allez arriver, vu que le voyage sera plus court, vous allez arriver plus vite. Et donc il va falloir dépenser plus d'énergie pour vous ralentir. Donc il y a un effet boule de neige qui fait qu'il faut emporter avec soi les ergols, le carburant, pour freiner à l'arrivée.
Donc il faut y aller, il faut compter le temps pour y aller, il faut arriver à se poser, parce que tout ça est à chaque fois des énormes points d'interrogation, donc oui. Se poser, y vivre, on y reviendra comment, et en subsistant comment, ça, il faut y revenir aussi, puis après il faut pouvoir avoir l'énergie pour redécoller et repartir, et toujours avec tous ces créneaux de temps...
Voilà, et si vous avez vu le film Seul sur Mars, il y a certaines choses qui sont tout à fait vraies, c'est que vous avez soit un séjour court, typiquement 3-4 semaines, qui n'est pas une finalité en soi, mais qui peut être un démonstrateur au début, avec un énorme inconvénient, c'est que la phase de retour n'est pas bonne du tout. Le créneau de retour n'est pas bon.
Parce que c'est-à-dire qu'il faudrait attendre plus si on veut revenir au bout de 3-4 semaines.
Le créneau naturel de retour, c'est 1 an et demi plus tard. Il faut séjourner 1 an et demi sur Mars. Voilà. Et il n'y a pas le choix. Soit c'est 1 mois, soit c'est 1 an et demi. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que dans le créneau d'un mois, le retour est un peu un bricolage. En fait, vous devez passer par Vénus et vous allez mettre 400 jours pour rentrer. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les astronautes parce que passer plus d'un an dans le vaisseau qui va vous ramener, c'est compliqué. En plus, passer par Vénus, ça chauffe. Vénus est près du Soleil. Et donc, on n'aimerait pas qu'il fasse 40 degrés dans la capsule, ou enfin dans le véhicule, et que les hommes se retrouvent à avoir beaucoup trop chaud. Donc ça pose des problèmes techniques compliqués. Et aujourd'hui, je suis incapable de vous dire que le séjour court se fera. Peut-être que seul le séjour long, qui est le séjour naturel et logique...
C'est-à-dire un an et demi sur place. Et donc un an pour y aller et un an pour en revenir.
Non, à peu près 7 mois aller, 7 mois
revenir. Allez, rien que 7 mois aller, 7 mois
revenir. Le résultat, c'est que tout ça vous prend 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Mm-hmm. En gros, l'aller-retour sur Mars, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Mais la première mission vers Mars, qui pourrait voir le jour dans les années 2030... Et quand on dit les années 2030, ça veut dire 2030-2039.
Ça veut dire 2040-2050. Enfin bon, et encore.
Non. La première. Ça serait une mission très simple. D'ailleurs, Denis Tito l'avait proposé dans les années 90-2000. C'était un astronaute qui était allé sur la Lune, sur la station. Et c'est de partir avec des hommes, de survoler Mars, mais vous ne vous arrêtez pas. Et ensuite, vous faites le grand tour autour du Soleil et vous revenez à la Terre. Ce voyage va durer 1 an et demi. Et ce voyage, qui n'a aucun intérêt sur le plan de l'étude de Mars, bien sûr, un énorme intérêt, c'est un peu l'équivalent d'Apollo 8, Apollo 9, Apollo 10, les missions qui ont préparé Apollo 11. Il faudra faire ces missions-là. Et ce voyage d'un an et demi avec un équipage qui va faire le tour autour du Soleil, qui va juste prendre une photo de Mars, est extrêmement important pour valider le véhicule de transport, le véhicule, la propulsion et tout ça.
Autour de la question comment aller sur Mars et pourquoi c'est peut-être encore plus complexe que ce qu'on imagine, mais du coup presque encore plus intéressant, la NASA, vous l'avez dit, y travaille, hein, c'est vraiment son but. Les acteurs privés y croient aussi, comme le fameux Elon Musk, pour preuve l'envoi de la navette spatiale privée, hein, SpaceX, qui a réussi en juin dernier, l'amarrage de sa fusée à la station spatiale, à l'ISS, et qui ne cache pas sa satisfaction, et ben Elon Musk justement, et même le président Trump, qui se la joue comme à leur habitude, forcément fanfaron.
Ça rend les gens enthousiastes pour l'avenir. Nous voulons que ce qui se passe dans la science-fiction, dans les romans, dans les films, ne soit plus seulement de la science-fiction, mais devienne réalité.
Nous sommes à nouveau les leaders du monde. Et ce n'est qu'un début. Ils vont aller sur Mars. Ils vont d'abord aller sur la Lune, pour ensuite aller vers Mars.
C'est simple, hein, finalement. Si on écoute le président Trump et puis si on suit Elon Musk, c'est simple. Et en plus, l'idée derrière, c'est carrément de coloniser. Pourquoi pas coloniser la Lune, coloniser Mars.
C'est simple, alors que ce qui a eu lieu en juin, ce n'est que ce que font les Russes depuis 20 ans, c'est-à-dire d'envoyer des capsules à l'ISS.
C'est ça, à la station spatiale.
À la station spatiale américaine, qui, du fait de l'arrêt de la navette spatiale, a obligé les Américains à acheter des sièges sur les Soyouz russes. Qui était assez humiliant comme situation. Et ça a duré.
Donc là, maintenant, ils sont capables d'y aller tout
seuls. Depuis une dizaine d'années.
Mais ce que vous soulevez vraiment dans votre livre, Francis Rocard, Dernière Nouvelle de Mars, c'est qu'au fond, on est juste capable, entre guillemets, c'est déjà un exploit extraordinaire, d'aller sur la station spatiale.
Aujourd'hui, à part les missions Apollo, les 500 astronautes, moins les 18 qui sont allés vers la Lune d'Apollo, les 500 astronautes dans le monde sont restés en orbite basse. Donc, ce qui est le plus simple, évidemment, à faire. Quand on parle d'aller sur Mars, là, on est dans des dimensions de durée, de masse. Les véhicules vont peser 100, 200, 300 tonnes. On ne sait pas exactement, mais c'est certainement... Or, par exemple, la grosse fusée que les Américains développent, qui s'appelle le Space Launch System, ou SLS, est capable d'envoyer 100 tonnes en orbite basse. Ça veut dire que le train spatial qui va aller vers Mars avec un équipage qui... S'il pèse 300 tonnes, il faut 3 lancements de fusées SLS, 1 milliard chaque lancement, 1 milliard de dollars chaque lancement, pour assembler les 3 éléments, pour en faire le train spatial qui permettra d'aller sur Mars. Donc on est vraiment dans une échelle de durée, dans une échelle de masse qui est très au-delà d'Apollo. Quoi.
Donc on est vraiment dans d'autres défis, dans d'autres questions, on va y venir à tous les niveaux. Mais donc il ne s'agit absolument pas de coloniser, enfin on en est bien loin, il y a quand même ça aussi qui est véhiculé, beaucoup de nos auditeurs nous soulèvent cette question-là, qui n'est pas, ça serait la porte de sortie, ça serait le plan B, on va partir dans l'espace, on va coloniser la Lune, Mars, vous n'y croyez absolument pas, hein, Francis Rocard.
Alors, le terme de colonisation, si on parle d'aller simple, non, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'il est totalement absurde d'imaginer qu'on pourra vivre de façon en autarcie sur Mars, sans être totalement dépendant de la Terre, je dirais sur le long terme. Ce que je crois, c'est que, en tous les cas, c'est ce que les Américains veulent faire, c'est qu'ils veulent fabriquer une base martienne pour un équipage de 4, 5, 6 personnes. Ça va durer quelques années, plusieurs missions successives, mais à un moment, ça aura une fin. Et c'est en aucun cas une colonisation qui me paraît totalement impossible. Si vous avez une panne sur une fusée, avec votre combinaison d'astronautes, parce que vous aurez la même combinaison quasiment que sur la Lune, vous n'êtes pas capable de réparer la fusée. Donc il y a quand même d'énormes contraintes. Le rêve que Elon Musk nous montre dans ces belles images où on voit 350 modules, j'ai essayé de les compter sur l'image, 350 modules, sachant que chaque module est lancé tous les deux ans, ça ferait déjà 170 ans de d'étalement.
Ah, c'est ça, d'accord.
Voilà, donc ça n'a aucun sens tout ça. Et lui, voilà, c'est son rêve, il pense qu'on va construire une ville sur Mars et que les gens y vivront en permanence. Ça pose un problème d'éthique et surtout de vision du monde qui pour moi est très critiquable, puisque le discours en creux, c'est vous les super riches, vous qui avez les moyens,
bien sûr.
Vous inquiétez pas si on pollue la Terre, puisque moi-même et vous-même, nous irons sur Mars et on laissera la Terre mourir toute seule. C'est extrêmement contestable comme démarche, donc voilà, c'est pas du tout celle de la NASA, c'est même pas celle du CNES et de l'ESA. Enfin, je veux dire que c'est juste Bezos, peut-être, et Elon Musk qui parlent
qui ont cette idée-là, heureusement. Donc, il ne s'agit pas du tout de coloniser Mars. Il s'agit déjà simplement de pouvoir y aller et de pouvoir aussi y atterrir. Parce que le voyage, la durée monstrueuse, comment faire pour décoller et comment faire pour atterrir sur Mars vivant, hein, parce que c'est quand même ça le but, si on est humain. Hein,
oui.
C'est ça le but. Hein, voilà.
Alors, atterrir, oui, c'est déjà extrêmement compliqué. Le meilleur système au monde, c'est celui de Curiosity.
Du robot Curiosity qui y est. Hein,
voilà, qui y est depuis 2012 et qui va être le même que celui de Perseverance.
Prochain robot mission Mars 120 qui devrait décoller quoi, cet été, là, 30 juillet, 15 août.
Ça a été retardé, 30 juillet, on parle du 2 août maintenant, ouais, peut-être le 8 août. Donc y a des petits problèmes sur le lanceur actuellement. Mais il ne faut pas rater la fenêtre, parce qu'après c'est 2 ans de décalage. Mais le système d'atterrissage de Perseverance, il n'est pas compatible, il n'est pas scalable, comme on dit en anglais. On ne peut pas le grossir pour l'appliquer à l'homme, d'une part. Et en plus, vous avez une décélération de 11 fois la gravité, ce qui est mortel pour l'homme. Donc il n'est pas applicable à l'homme. Donc il va falloir inventer des systèmes. Alors il y a plusieurs idées, j'en parle un peu dans mon livre. Il y a l'idée de tout faire à la force du poignet, c'est-à-dire à la force des rétrofusées. Ça veut dire freiner avant même d'avoir touché l'atmosphère de Mars et se ralentir et puis faire tout un peu comme la fusée de Tintin. Voilà, la fusée de Tintin, on freine uniquement avec... Sur la Lune, c'est ce qu'on fait, finalement.
Ah, c'est ce qu'on fait, ouais. On n'a pas trouvé d'autre.
Mais non, il n'y a pas le choix, il n'y a pas l'atmosphère. Donc on fait tout à la rétrofusée. C'est possible, mais ça coûte beaucoup de carburant. Alors que Perseverance a un bouclier thermique, on cède de l'atmosphère, ensuite on va céder avec un parachute. Mais si vous n'avez pas ces systèmes-là, il faut tout le faire avec des rétrofusées. Donc ça va grossir la taille des réservoirs, grossir la taille de l'engin. Mais je dirais qu'il y a pire que l'atterrissage, il y a le redécollage. Parce que l'engin qui redécolle est un atterrisseur lui-même. Donc il faut déjà le poser. Mais de deux choses l'une, soit c'est un engin qui a au minimum 2 étages, donc le premier sert à l'atterrissage, le deuxième sert au redécollage. Mmh. Soit cet engin est totalement vide d'ergol parce que vous arrivez à faire le plein sur Mars.
Ah oui, parce qu'il faudra aussi faire le plein pour le retour.
Ça serait bien, ça serait beaucoup mieux.
Ça serait bien, ouais.
Vous savez, une fusée, c'est 80 à 90% de sa masse, ce sont des ergols, du carburant. Donc la carlingue vide, elle n'est pas très lourde. Mmh. Donc poser une fusée vide d'ergol, c'est un engin qui est relativement léger. Si par contre on doit faire poser la fusée qui est pleine de carburant, ça décuple complètement le système.
Et là, donc il faut qu'elle soit vide quand elle atterrit et il faut qu'elle soit pleine une fois qu'elle est partie.
Voilà. Et donc il faut faire le plein sur Mars. Et donc ça suppose qu'on saura fabriquer... Alors quels sont les ergols? En fait c'est l'oxygène et le méthane pour les spécialistes, puisqu'il y a des moteurs qui fonctionnent très bien à l'oxygène et au méthane. C'est pas les meilleurs moteurs, mais c'est des moteurs simples et qui sont fiables. D'ailleurs, c'est ceux que Elon Musk veut utiliser pour son Starship. Et là, il a réfléchi. Il s'est dit, si je veux faire le plein, oxygène et méthane. Et donc, il s'agit à partir de l'eau de Mars qui est dans le sous-sol et du CO2 qui est partout dans l'atmosphère.
De Mars.
Mmh. Vous allez casser le CO2, beaucoup d'énergie, ça nécessite beaucoup d'énergie de casser le CO2.
Mais on pourrait fabriquer du carburant sur Mars.
C'est ça l'idée. Vous cassez la molécule d'eau, vous avez de l'oxygène, vous cassez le CO2, vous prenez l'hydrogène avec le carbone, vous faites du CH4, c'est-à-dire du méthane. Et avec CH4 et oxygène, vous avez le carburant et le comburant d'une fusée. Mais là, tout reste à faire. Tout reste à faire. C'est-à-dire, on sait au labo casser la molécule, on sait faire les choses au labo. Le problème, c'est est-ce qu'on saura extraire l'eau ? Pour l'instant, on ne l'a jamais fait. La question, c'est quelle eau on va choisir ? Parce que sur Mars, il y a plusieurs sources d'eau possibles.
Il y a plein d'auditeurs qui posent des questions là-dessus, hein, sur la vie sur Mars, et sur le fait qu'on y a découvert de l'eau sous la forme liquide.
Là, je suis plutôt dans le côté pratique.
Ouais, ouais.
C'est pas l'eau égale la vie. Hein,
on est dans
problème.
L'eau sur Mars.
L'eau, où est-ce que je vais trouver de l'eau pour fabriquer mon oxygène liquide ? Eh bien, la réponse, c'est, il y a trois réponses possibles. Soit les glaciers enterrés. Alors pourquoi enterrer ? Parce que si un glacier n'est pas enterré, il se sublime et il n'existe pas sur Mars. Donc seuls les glaciers enterrés existent aujourd'hui. Ils ont peut-être 4 milliards d'années. Ils sont simplement recouverts d'une couche de 1 à 10 mètres d'épaisseur qui les empêche de se sublimer, c'est-à-dire de passer en phase gazeuse.
De fondre ou de...
De passer en phase gazeuse, directement de l'état solide à l'état gazeuse, ça s'appelle la sublimation. La phase liquide n'étant pas possible. Mmh. Et donc, on sait qu'il y a entre 1 et 10 mètres. C'est pas énorme, c'est quand même pas mal. Mais il y a une complexité, c'est qu'à partir du moment où vous allez creuser avec un forêt 10 mètres, et vous allez taper dans de la glace dure, qui est le fameux glacier. Et là, ça pose des problèmes. Comment extraire cette glace, sachant que vous êtes à très basse pression, où la glace va naturellement se sublimer, va jamais vouloir passer en phase liquide. Or, traiter de l'eau, c'est facile si elle est en phase liquide. Mm-hmm. Sur Terre, on le fait. On le fait, on chauffe, et puis à ce moment-là, on fond la glace. Mais sur Mars, où la... Donc, voilà, ça pose des problèmes. Il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser les argiles et les sulfates hydratés.
Le sol,
à certains endroits. On a des milliers d'hectares de sulfates hydratés en surface, donc il n'y a pas besoin de creuser. Il y a juste une pelle pour gratter. Et avec des engins automatiques, parce qu'il va falloir le faire avant que les hommes n'arrivent.
Et donc c'est les robots qui vont
s'en
charger.
C'est les robots
qui
vont le faire. Et donc on va pelleter les sulfates, qui ne sont pas très durs, donc ça ne devrait pas être très compliqué. On va mettre ce matériau sulfaté. Qu'est-ce que c'est les sulfates ? En fait, c'est du plâtre. La place blanche est blanche parce qu'on extrayait des sulfates sous la place blanche de Paris.
Donc il y a donc une place blanche sur Mars.
Alors,
à Paris et peut-être sur Mars.
Il y aura peut-être une place blanche sur Mars. Et donc vous mettez ça dans une cuve, vous chauffez, et ça libère l'eau des sulfates. En fait, vous fabriquez du plâtre. Le plâtre, je ne sais pas si on l'utilisera, peut-être. Mais en tous les cas, vous allez pomper et récupérer l'eau. Et vous faites, avec le CO2, on va faire la même chose. Et ça, c'est assez simple. Et d'ailleurs, dans Persévérance, il y a MOXIE, qui est une expérience, qui est un démonstrateur.
Donc dans le prochain robot, hein,
qui part début août, qui va pomper le CO2 atmosphérique, casser la molécule de CO2 et fabriquer de l'oxygène. Juste voir si on sait le faire, en routine. On sait que ça... Et on ne va pas en fabriquer beaucoup, mais si on l'a fait pour en fabriquer, je ne sais pas, un litre par semaine, on grossit l'expérience et on en fabriquera 100 litres par jour et on pourra alimenter une base en oxygène, puisqu'on aura besoin de rajouter de l'oxygène dans la base.
Donc au conditionnel, hein, on en est uniquement là au robot, à prévoir énorme point d'interrogation autour de la question, quelle nouvelle de la planète Mars ? On peut quand même se demander pourquoi vouloir y aller à tout prix, surtout quand on sait que comme le chant de Camille et comme on le comprend en lisant votre livre, Francis Rocard, Mars is no fun.
You can't go to the beach, not in the water. You can't open the window, there's no air outside the bungalow. They didn't mention it on the brochure. Got trapped here when I moved 5 years ago. Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, they said everything is pure out there. You'll be the first human beings to show the world there's life outside of Earth. But the queens don't like us, they want us to leave a place. Will you get my postcard before Christmas? Mars is no fun. Mars, Mars, Mars is no fun. Mars, Mars, I want to go back on Earth and live with you in my social housing. Wander all afternoon in the shopping mall of
much, much stronger. It's like a tragedy, you're grounded on the ground. If you kiss, it's forever. If you do it on the bed, do you get the picture?
Et voilà Camille sur RFI. Mars is no fun. Nous sommes en compagnie de l'astrophysicien Francis Rocard en direct avec nous autour de son dernier ouvrage, Dernière nouvelle de Mars, la mission du siècle. Chez Flammarion, vous êtes d'accord avec Camille, Francis Rocard, Mars is no fun, ou avec Thomas Pesquet qu'on entendait au début de l'émission, pour qui Mars c'est très 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 fun et très excitant?
Je crois qu'un astronaute, tous les astronautes ont envie d'aller sur Mars, ça c'est sûr. Je ne suis pas astronaute et personnellement, je suis prêt à aller sur la Lune parce que ça, c'est une semaine de vacances. Mais sur Mars, en 3 ans, je laisse les professionnels à ma place.
Justement, nos auditeurs en Côte d'Ivoire nous demandent, est-ce qu'on peut affirmer que Mars est une planète habitable ou qui pourrait l'être un jour?
Alors, oui, c'est vrai que les Américains ont beaucoup communiqué sur l'habitabilité de Mars et souvent, ils n'ont pas expliqué ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Curiosity, en 2013 ou 2014, donc peu de temps après son arrivée, a foré dans le sol, a trouvé un matériau qui est plutôt bleuté, qui n'est pas oxydé. Et l'analyse de ce matériau, c'est de dire que Mars est habitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Mars devenait, par magie, plus chaude et humide, au point que l'eau liquide pouvait tout d'un coup se remettre à couler sur Mars, le milieu non oxydant et non oxydé à l'intérieur du matériau permettrait à des bactéries de se nourrir par des... Vous avez des molécules qui sont oxydantes, de soufre oxydé, du soufre réduit. La bactérie sait utiliser l'énergie entre le soufre réduit et le soufre oxydé. Donc il y a de l'énergie pour les bactéries, il y a la présence d'eau liquide, et donc finalement il y a tous les ingrédients pour que Mars soit habitable. C'est ça la notion d'habitabilité.
C'est ça, et c'est pour ça qu'on y recherche des traces de vie, des formes de vie passées. C'est pour ça aussi.
Oui,
qu'on cherche. Pense... Mais là, il n'y a pas besoin d'envoyer des humains pour envoyer des robots ou des rovers. Hein, c'est ça, hein, pour explorer les traces de vie.
On pense que Mars était habité il y a 4 milliards d'années. Mm-hmm. À l'époque où toutes ces traces d'eau que l'on voit aujourd'hui coulaient, l'eau coulait, les glaciers étaient affleurants, les vallées de débâcle existaient, les fleuves existaient, les lacs, etc. Jezero, c'est un ancien lac, donc il devait y avoir
Jezero,
un lac.
Jezero, c'est là où devrait se poser Persévérance.
Mais ça, c'était il y a 4 milliards d'années, 3, voilà. Et puis à partir de 3,5 milliards d'années, Mars est devenu un désert glacé. Et donc, l'effet de serre a disparu, l'atmosphère est partie, l'atmosphère est devenue très ténue. On a une pression sur Mars qui est égale à la pression à 30 km d'altitude sur Terre, donc il n'y a pratiquement pas de...
30 km d'altitude, oui, donc c'est pas vivable du tout,
Non, il vous faut une combinaison spatiale. Il vous faut pas seulement un masque à oxygène, mais la pression n'est... Votre sang bout si vous sortez sans combinaison. Donc c'est comme si vous étiez dans le vide quasiment. Et donc voilà, donc on cherche plutôt la vie ancienne, très ancienne. Ça ne veut pas dire que la vie actuelle sur Mars n'existe pas, mais si elle existe, on pense qu'elle existe en grande profondeur.
Ah, dans de l'eau peut-être, voilà. L'eau souterraine en très grande profondeur, et sous une forme très particulière et très
salée.
Très salée.
Oui, vous savez que l'océan, l'eau salée ne gèle pas, alors que l'eau douce gèle, les rivières gèlent et pas l'océan, beaucoup moins facilement.
Donc sur Mars, toute l'eau douce est gelée, moins 20 mini, enfin environ, alors que l'eau salée souterraine pourrait ne pas être gelée.
Exactement. Et c'est la recherche d'un radar qui s'appelle Marsis, sur Mars Express, mais ça fait, je compte sur mes doigts, ça fait 17 ans qu'il cherche, donc il a eu beaucoup de mal à trouver. Mais il y a, je crois, il y a 2 ans, après énormément d'efforts, il a trouvé un lac souterrain près du pôle sud, à environ 2 km de profondeur, qui est plutôt une saumure, c'est-à-dire un lac extrêmement riche en sel, ce qui pose des questions, est-ce que ce lac est réellement habitable ? Parce que quand il y a trop de sel, les bactéries n'arrivent plus à vivre.
En tout cas, vous avez répondu par là à la question d'un de nos fidèles auditeurs, Christian Yachet, à Yaoundé au Cameroun, qui s'interrogeait justement cette question de l'eau salée, de l'habitabilité. Bon, on l'a compris, Mars, c'est habitable avec tous les guillemets possibles, mais plus hostile que ça pour l'homme et l'humain, tu meurs, justement, c'est le cas de le dire. Vous avez cité parmi vos films, entre guillemets aussi préférés, Francis Rocard de science-fiction, sur la difficulté d'aller sur Mars, le film de Ridley Scott, Seul sur Mars. Je propose d'écouter un petit extrait, allez, où presque tout est vrai.
Bonjour, je suis Mark Watney, astronaute. J'effectue cette vidéo pour témoigner au cas où je mourrais. Il est 6h53 du sol 19 et je... C'est bien en vie, comme vous le voyez. Mais je pense que la nouvelle va beaucoup surprendre tous mes coéquipiers et la NASA. Et le monde entier, peut-être même, donc je vous dis... Surprise! Je ne suis pas mort le 18e sol. Je ne peux que supposer que cette tige provenant d'une parabole de communication entraînée par l'effort vent a traversé mon biomoniteur et m'a perforé en plus le ventre. Mais le sang et ce morceau de métal ont alors bouché le trou dans ma combinaison, ce qui m'a permis de survivre. N'empêche que l'équipage a dû me croire mort. J'ai aucun moyen de contacter la NASA. De toute façon, il faudra au moins 4 ans avant que la prochaine mission vienne me sauver. Et l'habitat où je me trouve est conçu pour 31 jours. Si mon oxygénateur défaille, je vais suffoquer. Si l'épurateur d'eau tombe en panne, la soif me tuera. Si mon habitation est percée, alors je vais imploser. Et même si par chance rien de tout ça ne m'arrive, je manquerai rapidement de vivre. Donc... Voilà.
Voilà l'idée et le scénario, selon vous, hein, Francis Rocard, le plus plausible, disons, celui de Seul sur Mars, de Ridley Scott, qui pose au fond toutes les questions à la fois pratiques et éthiques de l'humain sur Mars.
Oui, alors c'est la question du séjour court, séjour long. Donc il était prévu d'y rester quelques semaines et il va devoir y rester un an et demi. C'est ça son problème. Après, donc, il va essayer de régler son problème, notamment en cultivant des pommes de terre, comme vous le savez, et en utilisant les matières fécales de l'équipage. Alors ça, on sait déjà que ça ne marche pas si simplement que ça. Si vous faites ça, vous allez griller vos graines, ça ne marchera pas. Donc oui, il va falloir faire des cultures. Mais je pense que ça, je ne suis pas du tout sûr qu'on va pouvoir faire des cultures réellement dans le sol de Mars. D'abord parce que vous ne pouvez pas maintenir une pression de 1 bar sur un terrain avec uniquement une cloche. C'est pas, y a des fuites. Donc on va faire des cultures hors sol sur un matériau synthétique. C'est ce qui a été fait dans l'ISS avec les salades qui ont été mangées.
Oui, on a réussi à cultiver et à manger des salades dans la station spatiale.
Très bonnes. Et les salades étaient tout à fait comestibles. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir le faire pour garantir suffisamment de nourriture en fruits et légumes pour un équipage de 4, 5, 6, 7 personnes.
Ce sont des questions que se posent les penseurs aujourd'hui, ou ceux qui disent on travaille pour aller sur Mars et pour y envoyer des humains.
Oui. Ben, il faut se poser ces questions-là, ça fait partie du sujet. Néanmoins, je n'ai pas beaucoup trouvé de réponse là-dessus. C'est-à-dire que je n'ai pas bien compris encore combien d'hectares il va falloir mettre sous forme de clayettes dans des modules les uns sur les autres, avec des lampes à UV par-dessus pour apporter les ultraviolets pour que ça pousse. Combien de modules, finalement, de 20 tonnes chacun, il va falloir mettre bout à bout pour faire toutes les serres nécessaires à nourrir un équipage. Le calcul global, je ne l'ai encore jamais vu. Donc pour l'instant, on en est au stade de ce qu'on appelle la R&D. On fait des
recherches et développement.
Recherche et développement. On fait des tests dans l'ISS. On voit que ça marche. Mais le bilan global du système, ce qu'on appelle dans notre jargon le bilan système, c'est-à-dire qu'il faudrait 3 modules ou 5 modules, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas connu.
Alors, ce n'est qu'une des questions hein, nombreuses. Dans Seul sur Mars, il y a aussi la question, évidemment, du danger des radiations, du fait qu'il risque d'exploser, de suffoquer. Enfin, il y a plein de dangers pour les humains qui, même s'ils sont astronautes et qui rêvent d'y aller, qui se poseraient sur
Mars. Alors, les radiations, c'est un vrai sujet, puisque les calculs montrent que pendant ce voyage aller qui va durer 6-7 mois, la dose de radiation maximale dans la législation du nucléaire, hein, qui est pour les gens qui travaillent dans le nucléaire, cette dose maximale pour un homme sera atteinte. Rien qu'avec
le voyage aller sur Mars.
Et ensuite, il y aura le séjour sur Mars où ils vont être irradiés parce que l'atmosphère est assez ténue, donc les rayonnements cosmiques galactiques touchent le sol, et puis il y aura la phase de retour. Donc de toute façon, on est au-delà des limites acceptables à l'heure actuelle par la réglementation du nucléaire.
Donc ceux qui iraient, si on pouvait aller sur Mars, seraient irradiés de manière gravissime.
Alors, tout est dans le gravissime. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir sur place. Ça veut dire que, alors, ça se traduit par une probabilité de cancer 20 ans après la mission, un excès de cancer de 3%. Voilà. Ça, c'est la limite de la législation. Simplement, ce 3% va être dépassé. Ça veut dire que la probabilité de cancer dans les 20 ans pour les astronautes sera plutôt 10 ou 15%. Est-ce que c'est, sur le plan éthique, est-ce que c'est acceptable à discuter? Et puis après, il y aura donc une réglementation spéciale pour les astronautes. Il ne s'agit pas de changer toute la réglementation pour le nucléaire. Ça, c'est pas possible. Mais les astronautes devront savoir qu'ils prennent un risque en termes de probabilité de cancer. Et ça a plusieurs conséquences. Ça veut dire, par exemple, qu'on va prendre des astronautes plutôt âgés, quinquagénaires, et pas trentenaires. Parce que 20 ans après, quand vous avez 30 ans, vous en avez 50. Et donc, finalement, les probabilités de cancer augmentent pour les gens jeunes. On sait que les enfants et les bébés sont très sensibles aux radiations. Et donc, il vaut mieux prendre des quinquagénaires. Ils auront 70 ans, 20 ans après. Je n'allais pas dire c'est moins grave. Mais en plus, il se trouve que médicalement, on sait que des cancers sont moins évolutifs chez les personnes âgées. Parfois.
Mais finalement, on se rend compte, quand on pense à ce voyage sur Mars, qu'à chaque niveau et pour chaque question, c'est presque un problème insurmontable, une question éthique ou une question pratique quasiment insurmontable. Et on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi tenir absolument à y envoyer des humains et ne pas se contenter des robots, des rovers, enfin tous ces systèmes d'exploration qui nous en apprennent déjà énormément ?
Alors, ça nécessite effectivement un peu d'explication. L'homme sur Mars, ce n'est pas la recherche de la vie sur Mars. Beaucoup de gens mettent les deux côte à côte. Non, c'est le retour de l'échantillon qui est la recherche de la vie sur Mars.
Donc, l'émission robot Persévérance va nous ramener des échantillons.
D'accord. Voilà, mais c'est comme Apollo. Apollo, ce n'est pas la science. Apollo, c'était la compétition URSS-USA. Là, ce n'est pas la compétition complètement USA-Chine, même si à un moment, la Chine va devenir un danger. Mais c'est plutôt la nécessité pour les Américains, suite à Apollo. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans le cas du programme Apollo, le budget de la NASA a été multiplié par 50 dans les années 60, en 4 ans.
Pour aller sur Apollo.
Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les Américains sont les seuls au monde à dépenser la moitié de leur budget spatial pour les vols habités. Ils dépensent plus de 10 milliards par an. C'est énorme. Et donc, il y a une démarche à la fois au niveau de la Maison-Blanche, du Congrès et de la NASA de maintenir ce niveau. Parce qu'il y a des emplois derrière. Si vous dites que vous arrêtez les vols habités, vous licenciez en masse. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis, hein, le Covid l'a montré. Donc il y a une volonté interne très très forte, y compris de la part de Boeing, de la part de Lockheed Martin.
De poursuivre
coûte que coûte. Il faut habiter, coûte que coûte poursuivre. Et l'homme sur Mars, c'est finalement l'unique solution. C'est de dire, à long terme, c'est ça notre objectif. Et personne ne le conteste depuis 30 ans. Alors, c'est très lointain, mais ça fixe la feuille de route. Ça fixe l'objectif à long terme. Et ça, les Américains sont très... Ils ont besoin d'avoir cet objectif. Et aucun président des États-Unis n'a osé l'abandonner. Tout simplement parce qu'il ne faut pas insulter l'avenir. Parce que si vous dites, non, on n'ira pas sur Mars, quelque part, vous êtes un président, vous allez vous faire violemment critiquer. Et le président qui va être élu 4 ans plus tard va dire « mais pas du tout, on continue ». Et hop, il va se faire discréditer. Donc cet objectif, personne ne l'a abandonné. Il ne coûte rien à court terme. Un objectif à 30 ans, ça ne coûte rien. Par contre, ce qui coûte en ce moment, c'est la phase numéro 1 qui est de passer par la Lune. Celle-là, elle coûte forcément très cher.
Donc on voit bien qu'il y a des raisons beaucoup plus géopolitiques, mais aussi sociales, économiques, d'autres raisons bien plus que scientifiques autour de la question... Quelle nouvelle de Mars ? C'est pourquoi vouloir à tout prix y aller ? Et puis surtout comment ? Allez, en attendant de comprendre pourquoi toutes ces questions-là sont devenues géopolitiques aujourd'hui, on se laisse embarquer dans votre navette musicale, Francis Rocard, et pour cause. Vous avez choisi d'écouter Marvin Gaye, Funky Space Reincarnation sur RFI. C'est parti.
Some other reaction. Seems to me though that the reason we're together here is that we're supposed to be together.
Marvin Gaye sur RFI, extrait de Funky Space, Reincarnation. Pourquoi ce très joli choix musical, Francis Rocard ?
Oh, tout simplement parce que ça raconte un voyage dans le système solaire pour des touristes. J'aime beaucoup ce groove de Marvin Gaye.
Voilà, parce que pour ce qui est des voyages touristiques dans le système solaire, on a aussi beaucoup de questions d'auditeurs là-dessus. Vous n'êtes pas non plus spécialement pour et vous ne...
On ne sait pas que je suis pour, il y aura... Enfin, je ne crois pas beaucoup aux voyages touristiques dans le système solaire, on n'en est pas là du tout.
Par contre, les voyages touristiques à l'intérieur même de la Terre, enfin au-dessus de la Terre, commencent à être compliqués.
Par contre, le tourisme spatial, oui, il va exploser. Il va exploser avec Jeff Bezos. Mais ça sera des sauts de puce de 5 minutes qui vont vous coûter 250 000 dollars. Mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens qui veulent le faire. Vous allez monter à 300 km d'altitude et vous aurez 5 minutes de gravité zéro et vous allez voir la rotondité de la Terre, vous allez voir le ciel noir et vous allez avoir le titre d'astronaute. Parce que si vous allez au-delà de 100 km, vous êtes un astronaute. Donc tous ces gens vont se dire « je suis un astronaute », c'est un rêve pour beaucoup de gens.
C'est un rêve qui demande beaucoup d'argent, on l'a bien compris. Vous aviez parlé aussi autour de la question « quelle nouvelle de Mars et pourquoi vouloir à tout prix y aller ?» Deux raisons économiques, mais aussi géopolitiques. On peut quand même rappeler que cet été, il n'y a pas moins de 3 missions spatiales qui partent pour Mars. Donc l'américaine Mars 2020 avec le gros rover Perseverance qui va notamment embarquer un instrument français, la Supercam caméra chimique. Il y a aussi la chinoise Tianwen-1 qui est attendue sur Mars. Il y a aussi Hope, l'orbiteur lancé pour le compte des Émirats Arabes Unis par une fusée japonaise, l'européenne ExoMars, on va attendre un peu 2022, il y a aussi d'autres projets sous le coup, il y a une effervescence interplanétaire. À ce sujet, nouvelle question Francis Rocard pour vous, soulevée par mon confrère du mensuel Ciel et Espace, Philippe Hénarejos.
Je voudrais savoir s'il sait si on va avoir des retours, notamment pour la presse, de la mission chinoise qui doit déposer un rover sur Mars, et si elle fonctionne, si on aura des retours à la fois scientifiques mais aussi en images, parce que l'expérience qu'on a eue avec les sondes chinoises Chang'e 3 et Chang'e 4 sur la Lune ont été assez décevantes jusque-là, c'est-à-dire que c'était des images de seconde main, peu définies, et finalement il n'y a pas de communication envers le public venant de la Chine. Donc je voulais savoir s'il avait des informations concernant le programme chinois et sur la manière dont allaient être communiquées les images, sinon les résultats.
Vous avez des informations, Francis Rocard, sur cette
Alors,
question?
Alors, Philippe Alarejo s'est très bien informé, probablement autant que moi, donc en fait, il connaît la réponse. Les Chinois sont des piètres communicants. Bon, c'est clair. Je pense qu'ils font une erreur et qu'ils vont corriger cette erreur avec le temps parce que la NASA l'a très très bien compris. La meilleure publicité de ces missions planétaires, c'est l'image. Et quand vous montrez des images d'un atterrissage sur Mars, il y a un public énorme. Il y a eu, je crois, un moment sur Internet, 1 milliard de connexions pour voir les images. Donc il y a une demande et les Chinois vont vite le comprendre. Simplement, pour l'instant, ils sont sous un joug militaire en Chine. Tout est un peu militaire quelque part. Et c'est pas dans leur ADN de communiquer. Ils sont plutôt dans le secret et je crois qu'ils vont apprendre. Maintenant, sur Tianwen, on a peu d'informations. On sait qu'il y aura un instrument qui ressemble beaucoup au Supercam de Curiosity. Hein. Et d'ailleurs, nous avons des coopérations, caméras chimiques.
Est-ce qu'il y a des coopérations, justement, entre toutes ces diverses missions, notamment exploration, là on ne parle plus humaine, mais vraiment rover, robot, sur Mars, enfin, sur la Lune et sur Mars. Est-ce qu'il y a des collaborations? Est-ce que ça se tire dans les pattes? Est-ce que c'est aussi, évidemment, comme toujours, moi le premier qui irait planter mon drapeau, mon rover,
non,
ma photo
Je dirais que le CNES a dans son ADN la coopération. C'est-à-dire que moi, dont c'est mon métier, c'est de m'occuper de coordonner ces programmes, aucune des missions planétaires n'est française. Voilà, donc tout a été fait en coopération. Donc soit on est sur une mission européenne de l'ESA, soit américaine, soit russe, soit chinoise, soit japonaise, etc.
Avec des instruments et des spécificités, voilà. En l'occurrence françaises. Voilà. Et vous travaillez aussi avec les Chinois, par exemple, ou avec
Ça commence. Et ils ouvrent la porte. C'est-à-dire que depuis quelques années, ça y est, les Chinois invitent à coopération. Ils sont dans la démarche des Soviétiques dans les années 70-80, qui se sont rendus compte qu'ils savaient fabriquer les grosses machines, les fusées, les atterrisseurs, Chang'e 3, Chang'e 4. Par contre, les instruments, ils étaient moins bons. Donc, l'idée, c'est de faire venir des instruments occidentaux avec des technologies très pointues sur leur mission pour avoir un retour scientifique de haut niveau.
Vous nous en parlerez, hein, Francis Rocard, la prochaine fois. Oui. En attendant, j'imagine que vous attendez beaucoup du retour d'échantillons, hein, de Mars 2020 et de Perseverance. C'est pour quand ces retours d'échantillons? On termine là-dessus parce qu'on est
vraiment
à la fin.
Alors, ça fait 30 ou 40 ans qu'on l'attend. La mission qui donc part début août... va se solder par des échantillons qui sont attendus au plus tôt dans 10 ans. Alors c'est long, mais comme on a déjà attendu 30 ou 40 ans, on n'est pas à 10 ans près. Et surtout, c'est vraiment indispensable pour traiter cette question de la vie ancienne sur Mars.
Autour de la question sur Terre comme dans l'espace, c'est fini pour 2020. Rendez-vous l'année prochaine, chers amis auditeurs et auditrices à l'esprit libre et curieux. Dès lundi 4 janvier, nous serons de retour en direct sur RFI autour d'une question sensible. Comment nous refaire confiance? En compagnie de l'économiste Claudia Sénic et de la philosophe des sciences Elena Pasquinelli, autour de leurs ouvrages respectifs Crise de confiance, point d'interrogation et L'art de faire confiance. Inspirant programme à partager, à podcaster, bien sûr. En attendant, nous vous souhaitons, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro, une fin d'année aussi douce et lumineuse que possible. Merci pour votre écoute bienveillante et précieuse, surtout par les temps qui courent. Restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Prenez soin de vous et des autres. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.